Les nuits de France Culture.
Dans son essai « La sorcière », Michelet redéfinit entièrement l'héritage historique et symbolique des sorcières. Elles sont avant tout des figures consolatrices, incarnations du soin et de la bienveillance. Ce sont des guérisseuses qui utilisent la nature pour remédier aux mal médiévaux. Elles sont évidemment mal vues par l'Église, qui, elle, voit dans la maladie une punition de Dieu pour les péchés de ces pauvres qui viennent demander leur absolution. Mais la vie de ces femmes est aussi une vie dure, souvent remplie de misère et d'humiliation, infligée entre autres par les seigneurs. Entre droits de cuissage et demandes de dîmes trop élevées, les guérisseuses ne peuvent rien faire contre cette figure cruelle d'une autorité injuste. C'est là qu'intervient une présence discrète, le petit génie du logis, qui comble la solitude de la femme et qui, peu à peu, l'amène à pactiser avec Satan. La guérisseuse consolatrice se fait alors sorcière puissante, avide de vengeance, et se donne tout entière au diable pour faire le mal et se venger de sa condition. Satan offre dans ce contexte une porte de sortie d'une vie morose et paysanne et donne de la puissance à celles qui n'en ont pas. Tel est le portrait brossé par les extraits choisis de l'essai de Michelet dans cette deuxième de trois parties d'une série de La liberté coupable consacrée à la sorcière. C'est nul autre que Roland Barthes qui présente ces extraits, qu'il a d'ailleurs choisi lui-même pour l'occasion, mis en valeur par une superbe lecture d'Alain Cuny. Une émission diffusée pour la première fois le 15 février 1964.
La RTF présente La liberté coupable. La liberté coupable, cinquième série. La sorcière de Jules Michelet. Texte choisi et présenté par Roland Barthes et lu par Alain Cuny. Aujourd'hui, deuxième émission, La sorcière consolatrice.
On l'a vu, Michelet a pris la sorcière de très loin. À vrai dire, nous ne l'avons pas encore vu naître. Nous savons seulement que dans la dure condition de la femme au Moyen-Âge, une seule lueur vient éclairer l'épouse du serf à son foyer, c'est la présence discrète, officieuse, quotidienne, d'un petit génie bénéfique qui parle à l'oreille de la femme, la distrait du pesant ennui médiéval et l'aide. C'est le petit démon du foyer. Cependant, plus la condition de la femme se fait âpre, plus le démon prospère. Il sera bientôt assez puissant pour arracher la femme de sa maison, lui faire gagner la lande sauvage et lui faire nouer un pacte avec Satan. La sorcière va naître. À cette naissance, Michelet donne deux causes symboliques, ou plutôt deux occasions, puisqu'il s'agit d'un récit romanesque. La première est la situation avilie de la femme serve devant le seigneur. Le serf doit à son seigneur ce qu'on appelait les prémices de la mariée, et cette obligation, selon Michelet, n'était nullement fictive. Et Michelet imagine la scène honteuse, l'humiliation de la jeune femme, la souffrance du mari, obligé d'acheter la plupart du temps, mais quelquefois sans succès, la virginité de sa femme. Cet homme-là, dit Michelet, aurait crevé s'il n'espérait dans le démon. Et lorsque le mari et sa femme, humiliés, torturés, rentrent à la maison, ils y trouvent un consolateur et un vengeur, Satan. La seconde occasion, qui permet à Michelet de faire naître la sorcière, a trait à l'avènement de l'or, qui devient, selon Michelet, vers 1300, le grand pape, le grand dieu. Tout se ramène à l'or. Plus de servitude, des exactions. Le seigneur exige du serf un or que celui-ci ne pourrait lui donner, si précisément Satan, une fois encore, n'intervenait. Il comble la femme d'or et, par sa richesse surnaturelle, l'épouse du cerf, devenue triomphante, se trouve ainsi marquée, en quelque sorte, désignée et déjà exclue. On la soupçonne de possession, l'Église intervient et elle demande au Seigneur de plonger la femme possédée dans un in pace.
Mais la proie sentit le chasseur. Quelques minutes plus tard, elle aurait été enlevée, à jamais scellée sous la pierre. Elle se couvrit d'un haillon qui se trouvait dans l'étable, prit des ailes, en quelque sorte, et avant minuit se trouva à quelques lieues loin des routes, sur une lande abandonnée qui n'était que chardons et ronces. Des siècles avaient passé depuis la veille. Elle était métamorphosée. La belle, la reine de village, n'était plus. Son âme changée changeait ses attitudes même. Elle était comme un sanglier sur ses glands ou comme un singe accroupi. Elle roulait des pensées nullement humaines. Quand elle entend ou croit entendre un miaulement de chouette, puis un aigre éclat de rire. Elle a peur. Mais c'est peut-être le jet moqueur qui contrefait toutes les voix. Ce sont ses tours ordinaires. L'éclat de rire recommence. D'où vient-il ? Elle ne voit rien. On dirait qu'il sort d'un vieux chêne. Mais elle entend distinctement « Ah, te voilà donc enfin. Tu n'es pas venu de bonne grâce. Et tu ne serais pas venu si tu n'avais trouvé le fond de ta nécessité dernière. Il t'a fallu, l'orgueilleuse, faire la course sous le fouet, crier et demander grâce, moquer, perdu, sans asile, rejeté de ton mari. Où serais-tu si, le soir, je n'avais eu la charité de te faire voir l'in pace qu'on te préparait dans la tour ? C'est tard, bien tard, que tu me viens, et quand on t'a nommé la vieille. Jeune, tu ne m'as pas bien traité, moi, ton petit lutin d'alors, si empressé à te servir. À ton tour, si je veux de toi, de me servir et de baiser mes pieds. Tu fus mienne dès ta naissance, par ta malice contenue, par ton charme diabolique. J'étais ton amant, ton mari. Le tien t'a fermé sa porte. Moi, je ne ferme pas la mienne. Je te reçois dans mes domaines, mes libres prairies, mes forêts. Qui gagnais-je? Est-ce que, dès longtemps, je ne t'ai pas à mon heure? Ne t'ai-je pas envahi, possédé, empli de ma flamme? J'ai changé, remplacé ton sang. Il n'est veine de ton corps où je ne circule pas. Tu ne peux pas savoir toi-même à quel point tu es mon épouse. Mais nos noces n'ont pas eu encore toutes les formalités. J'ai des mœurs, je me fais scrupule. Soyons un pour l'éternité. Mais sire, dans l'état où je suis, que dirais-je? Oh, je l'ai senti, trop bien senti, que dès longtemps vous êtes toute ma destinée. Vous m'avez malicieusement caressé, comblé, enrichi, afin de me précipiter. Hier, quand le lévrier noir mordit ma pauvre nudité, sa dent brûlait, j'ai dit, c'est lui. Le soir, quand cette hérodiade salie effraya la table, quelqu'un était entremetteur pour compromis mon sang. C'est vous. Oui, mais c'est moi qui t'ai sauvé et qui t'ai fait venir ici. J'ai fait tout, tu l'as deviné. Je t'ai perdu. Et pourquoi? C'est que je te veux sans partage. Franchement, ton mari m'ennuyait. Tu chicanais, tu marchandais. Tout autre sont mes procédés. Tout ou rien. Voilà pourquoi je t'ai un peu travaillé, discipliné, mis à point, mûri pour moi. Car telle est ma délicatesse. Je ne prends pas, comme on croit, tant d'âmes sottes qui se donneraient. Je veux des âmes élues, à un certain état friand de fureur et de désespoir. Tiens, je ne peux te le cacher. Tel que tu es aujourd'hui, tu me plais. Tu t'embellis fort, tu es une âme désirable. Oh, qu'il y a longtemps que je t'aime. Mais aujourd'hui, j'ai faim de toi. Je ferai grandement les choses. Je ne suis pas de ces maris qui comptent avec leurs fiancés. Si tu ne voulais qu'être riche, cela serait à l'instant même. Si tu ne voulais qu'être reine, remplacer Jeanne de Navarre. Quoi qu'on y tienne, on le ferait. Et le roi n'y perdrait guère en orgueil, en méchanceté. Il est plus grand d'être ma femme. Mais enfin, dis ce que tu veux. Mais sire, rien que de faire du mal. Charmante, charmante réponse. Oh, que j'ai raison de t'aimer. En effet, cela contient tout, toute la loi et tous les prophètes. Puisque tu as si bien choisi, il te sera par-dessus, donné de surplus tout le reste. Tu auras tous mes secrets. Tu verras au fond de la terre. Le monde viendra à toi et mettra l'or à tes pieds. Plus, voici le vrai diamant, mon épousée, que je te donne. La vengeance. Je te sais, friponne. Je sais ton plus caché désir. Oh, que nos cœurs s'entendent là. C'est bien là que j'aurai de toi la possession définitive. Tu verras ton ennemi agenouillé devant toi, demandant grâce et priant. Heureuse si tu la tenais quitte en faisant ce qu'elle te fit. Elle pleurera. Toi, gracieuse, tu diras non. Et la verra crier, mort et damnation. Alors j'en fais mon affaire. Messire, je suis votre servante. J'étais ingrate, c'est vrai, car vous m'avez comblée toujours. Je vous appartiens, ô mon maître, ô mon Dieu. Je n'en veux plus d'autre. Suaves sont vos délices. Votre service est très doux. Là, elle tombe à quatre pattes. L'adore. Elle lui fait d'abord l'hommage dans les formes du temple qui symbolise l'abandon absolu de la volonté. Son maître, le prince du monde, le prince des vents, lui souffle à son tour comme un impétueux esprit. Elle reçoit à la fois les trois sacrements à rebours, baptême, prêtrise et mariage. Dans cette nouvelle église, exactement l'envers de l'autre, toute chose doit se faire à l'envers. Soumise, patiente, elle endura la cruelle initiation soutenue de ce mot, vengeance. Bien loin que la foudre infernale l'épuisa, la fit languissante, elle se releva redoutable et les yeux étincelants. La lune, qui chastement s'était un moment voilée, eut peur en la revoyant. Épouvantablement gonflée de la vapeur infernale, de feu, de fureur et, chose nouvelle, de je ne sais quel désir, elle fut un moment énorme par cet excès de plénitude et d'une beauté horrible. Elle regarda tout autour. Et la nature était changée. Les arbres avaient une langue, comptaient les choses passées. Les herbes étaient des simples. Telles plantes qu'hier elle foulait comme du foin, c'étaient maintenant des personnes qui causaient de médecine. Elle s'éveilla le lendemain en grande sécurité, loin, bien loin de ses ennemis. On l'avait cherchée. On n'avait trouvé que quelques lambeaux épars de la fatale robe verte. S'était-elle, de désespoir, précipitée dans le torrent? Avait-elle été vivante, emportée par le démon? On ne savait. Des deux façons, elle était damnée à coup sûr. Grande consolation pour la dame de ne pas l'avoir trouvée. L'eût-on vue, on l'eût à peine reconnue tellement elle était changée. Les yeux seuls restaient non brillants, mais armée d'une très étrange et très peu rassurante lueur. Elle-même avait peur de faire peur. Elle ne les baissait pas. Elle regardait de côté, dans l'obliquité du rayon. Elle en éludait l'effet. Brunie tout à coup, on eût dit qu'elle avait passé par la flamme. Mais ceux qui observaient mieux sentaient que cette flamme, plutôt, était en elle, qu'elle portait un impur et brûlant foyer. Le trait flamboyant dont Satan l'avait traversé lui restait, et, comme à travers une lampe sinistre, lançait tel reflet sauvage, pourtant d'un dangereux attrait. On reculait, mais on restait, et les sens étaient troublés. Elle se vit à l'entrée d'un de ces trous de troglodytes, comme on en trouve d'innombrables dans certaines collines du centre et de l'ouest. C'étaient les marches, alors sauvages, entre le pays de Merlin et le pays de Mélusine. Des landes à perte de vue témoignent encore des vieilles guerres et des éternels ravages, des terreurs qui empêchaient le pays de se repeupler. Là, le diable était chez lui. Des rares habitants, la plupart, lui étaient fervents, dévots. L'hiver commençait. Son souffle, qui déshabillait les arbres, avait entassé les feuilles, les branchettes de bois mort. Elle trouva cela tout près à l'entrée du triste abri. Par un bois et une lande d'un quart de lieue, on descendait à portée de quelques villages qu'avait créé un cours d'eau. « Voilà ton royaume, lui dit la voix intérieure. »
Le pacte a été conclu. Satan est l'époux de l'ancienne femme du cerf, la sorcière triomphante est née. Quelles vont être ses fonctions? Eh bien, ce seront essentiellement des fonctions de compassion. Satan étant alors contre l'Église, du côté de la nature. La première fonction de la sorcière, c'est de permettre aux hommes de communiquer avec leurs morts. On vient voir la sorcière dans sa lande, en se cachant, pour écouter la voix qu'elle prête aux parents ou aux amis défunts. Mais surtout, sa fonction, dans une civilisation sans médecine, va être de guérir les hommes par les moyens de la nature. Et pour décrire cette fonction capitale de la sorcière, Michelet va nous donner une fresque admirable des maladies du Moyen-Âge et des remèdes que leur apporta la sorcière.
Satan médecin. Les maladies du Moyen-Âge, autant qu'on peut l'entrevoir, avaient été surtout la faim, la langueur et la pauvreté du sang. Cette étisie qu'on admire dans la sculpture de ce temps-là. Le sang était de l'eau claire. Les maladies scrofuleuses devaient être universelles. Sauf le médecin arabe ou juif chèrement payé par les rois, la médecine ne se faisait qu'à la porte des églises, aux bénitiers. Le dimanche, après l'office, il y avait force malade. Ils demandaient des secours et on leur donnait des mots. « Vous avez péché et Dieu vous afflige. Remerciez. » C'est autant de moins sur les peines de l'autre vie. Résignez-vous, souffrez, mourrez. L'Église a ses prières des morts. Faible, languissant, sans espoir ni envie de vivre, il suivait très bien ce conseil et laissait aller la vie. Fatal découragement, misérable état qui dut fermer le progrès. Le pis, c'est de se résigner si aisément, d'accepter la mort si docilement, de ne pouvoir rien, ne désirer rien. Mieux valait la nouvelle époque, cette fin du Moyen-Âge qui, au prix d'atroces douleurs, nous donne le premier moyen de rentrer dans l'activité, la résurrection du désir. Quelques Arabes prétendent que l'immense éruption des maladies de la peau qui signale le XIIIe siècle fut l'effet des stimulants par lesquels on cherchait alors à réveiller et raviver les défaillances de l'amour. Nul doute que les épices brûlantes apportées d'Orient n'y aient été pour quelque chose. La distillation naissante et certaines boissons fermentées purent aussi avoir action. Mais une grande fermentation bien plus générale se faisait. Dans l'aigre combat intérieur de deux mondes et de deux esprits, un tiers survit qui les fit taire. La foi pâlissante, la raison naissante disputaient. Entre les deux, quelqu'un se saisit de l'homme. Qui ? L'esprit impur, furieux des âcres désirs, leur bouillonnement cruel. N'ayant nul épanchement, ni les jouissances du corps, ni le libre jet de l'esprit, la sève de vie refoulée se corrompit elle-même. Sans lumière, sans voix, sans parole, elle parla en douleur, en sinistres efflorescences. Une chose terrible et nouvelle advient alors. Le désir ajourné, sans remise, se voit arrêté par un cruel enchantement, une atroce métamorphose. L'amour avançait, aveugle, les bras ouverts. Il recule, frémit, mais il a beau fuir, la furie du sang persiste, la chair se dévore elle-même en titillation cuisante, et plus cuisant au-dedans, sévit le charbon de feu, irrité par le désespoir. On imputa la lèpre aux croisades, à l'Asie. L'Europe l'avait en elle-même. La guerre que le Moyen-Âge déclara et à la chair et à la propreté devait porter son fruit. Plus d'une sainte est vantée pour ne s'être jamais lavé, même les mains, et combien moins le reste. La nudité d'un moment eût été grand péché. Les mondains suivent fidèlement ces leçons de monachisme. Cette société subtile et raffinée, qui immole le mariage et ne semble animée que de la poésie de l'adultère, elle garde sur ce point si innocent un singulier scrupule. Elle craint toute purification comme une souillure. Nul bain pendant 1000 ans. Soyez sûrs que pas un de ces chevaliers, de ces belles si éthérées, les Perceval, les Tristan, les Iseut, ne se lavait jamais. De là, un cruel accident si peu poétique en plein roman, les furieuses démangeaisons du XIIIe siècle. Quel remède l'Europe chrétienne trouve-t-elle à ce double mal? La mort, la captivité, rien de plus. Quand le célibat amer, l'amour sans espoir, la passion aiguë irritée t'amène à l'état morbide. Quand ton sang se décompose, descend dans un inpatché ou fais ta hutte au désert. Tu vivras la clochette en main pour que l'on fuit devant toi. Nul être humain ne doit te voir. Tu n'auras nulle consolation si tu approches la mort. La lèpre est le dernier degré et l'apogée du fléau. Mais 1000 autres maux cruels, moins hideux, sévirent partout. Les plus pures et les plus belles furent frappées de tristes fleurs qu'on regardait comme le péché visible ou le châtiment de Dieu. On fit alors ce que l'amour de la vie n'eût pas fait faire. On transgressa les défenses. On déserta la vieille médecine sacrée et l'inutile bénitier. On alla à la sorcière. Au premier bouillonnement qui en sauvageait le sang, en grand secret aux heures douteuses, on allait à la Sibylle. Démarche hardie et coupable qu'on se reproche le soir. Il faut bien qu'elle soit pressante, cette fatalité nouvelle, qu'il soit bien cuisant ce feu, que tous les saints soient impuissants. Mais quoi? Le procès du temple, le procès de Boniface, ont dévoilé la Sodome qui se cachait sous l'autel. Un pape sorcier, ami du diable et emporté par le diable, cela change toutes les pensées. Est-ce sans l'aide du démon que le pape, qui n'est plus à Rome, dans son Avignon, Jean 22, fils d'un cordonnier de Cahors, a pu amasser plus d'or que l'empereur et tous les rois. Tel le pape et tel l'évêque. Guichard, l'évêque de Troyes, n'a-t-il pas obtenu du diable la mort des filles du roi? Nous ne demandons nulle mort, nous, mais de douces choses. Vie, santé, beauté, plaisir. Chose de Dieu que Dieu nous refuse. Que faire si nous les avions de la grâce du prince du monde? Le grand et puissant docteur de la Renaissance, Paracelse, en brûlant les livres savants de toute l'ancienne médecine, les latins, les juifs, les arabes, déclare n'avoir rien appris que de la médecine populaire, des bonnes femmes, c'est le nom poli, craintif, qu'on donnait aux sorcières, des bergers et des bourreaux. Ceux-ci étaient souvent d'habiles chirurgiens, rebouteurs d'eau cassée, d'émis et de bons vétérinaires. Je ne doute pas que son livre admirable et plein de génie sur les maladies des femmes, le premier qu'on ait écrit sur ce grand sujet, si profond, si attendrissant, ne soit sorti spécialement de l'expérience des femmes mêmes, de celles à qui les autres demandaient secours. J'entends par là les sorcières qui, partout, étaient sages-femmes. Jamais, dans ces temps, la femme n'eut admis un médecin mâle, ne se fut confiée à lui, ne lui eût dit ses secrets. Les sorcières observaient seules et furent, pour la femme surtout, le seul et unique médecin. Ce que nous savons le mieux de leur médecine, c'est qu'elles employaient beaucoup pour les usages les plus divers, pour calmer, pour stimuler, une grande famille de plantes, équivoques, fort dangereuses, qui rendirent les plus grands services. On les nomme avec raison les consolantes, solanées. Famille immense et populaire, dont la plupart des espèces sont surabondantes, sous nos pieds, aux haies, partout. Famille tellement nombreuse qu'un seul de ces genres a 800 espèces. Rien de plus facile à trouver, rien de plus vulgaire. Mais ces plantes sont la plupart d'un emploi fort hasardeux. Il a fallu de l'audace pour en préciser les doses. L'audace peut être du génie. La sorcière risquait beaucoup. Personne alors ne pensait qu'appliquer extérieurement, ou pris à très faible dose. Les poisons sont des remèdes. Les plantes que l'on confondait sous le nom d'herbes aux sorcières semblaient des ministres de mort. Telles qu'on eût trouvées dans ses mains, l'aurait fait croire empoisonneuse ou fabricatrice de charmes maudits. Une foule aveugle, cruelle en proportion de sa peur, pouvait, un matin, l'assommer à coups de pierre, lui faire subir l'épreuve de l'eau, la noyade. Ou enfin, chose plus terrible, on pouvait la corde au cou, la traîner à la cour d'église, qui en eût fait une pieuse fête, eût édifié le peuple en la jetant au bûcher. Elle se hasarde pourtant, va chercher la terrible plante. Elle y va au soir, au matin, quand elle a moins peur d'être rencontrée. Pourtant, un petit berger était là, le dit au village. Si vous l'aviez vu comme moi, se glisser dans les décombres de la masure ruinée, regarder de tous côtés, marmotter je ne sais quoi. Oh, elle m'a fait bien peur. Si elle m'avait trouvé, j'étais perdu. Elle eût pu me transformer en lézard, en crapaud, en chauve-souris. Elle a pris une vieille herbe, la plus vilaine que j'ai vue, d'un jaune pâle de malade, avec des traits rouges et noirs, comme on dit les flammes d'enfer. L'horrible, c'est que toute la tige était velue comme un homme, de longs poils noirs et collants. Elle l'a rudement arrachée en grognant, et tout à coup, je ne l'ai plus vue. Elle n'a pu courir si vite, elle se sera envolée. Quelle terreur que cette femme, quel danger pour tout le pays. Il est certain que la plante effraie. C'est la jusquiame, cruel et dangereux poison, mais puissant émollient. Doux cataplasme sédatif qui résout, détend, endort la douleur, guérit souvent. Un autre de ces poisons, la belladone, ainsi nommée sans doute par la reconnaissance, était puissante pour calmer les convulsions qui parfois surviennent dans l'enfantement, qui ajoutent le danger au danger, la terreur à la terreur de ce suprême moment. Mais quoi ? Une main maternelle insinuait ce doux poison, endormait la mère et charmait la porte sacrée. L'enfant, tout comme aujourd'hui, où l'on emploie le chloroforme, seul opérait sa liberté, se précipitait dans la vie. La belladone guérit de la danse en faisant danser. Audacieuse homéopathie qui d'abord dut effrayer. C'était la médecine à rebours, contraire généralement à celle que les chrétiens connaissaient, estimaient seuls d'après les arabes et les juifs. Comment y arriva-t-on? Sans doute par l'effet si simple du grand principe satanique que tout doit se faire à rebours, exactement à l'envers de ce que fait le monde sacré. Celui-ci avait l'horreur des poisons. Satan les emploie et il en fait des remèdes. L'Église croit par des moyens spirituels, sacrements, prières, agir même sur les corps. Satan, au rebours, emploie des moyens matériels pour agir même sur l'âme. Il fait boire l'oubli, l'amour, la rêverie, toute passion. Aux bénédictions du prêtre, il oppose des passes magnétiques par de douces mains de femme qui endorment les douleurs. Mais la grande révolution que font les sorcières, le plus grand pas à rebours contre l'esprit du Moyen-Âge, c'est ce qu'on pourrait appeler la réhabilitation du ventre et des fonctions digestives. Elles professèrent hardiment rien d'impur et rien d'immonde. L'étude de la matière fut dès lors illimitée, affranchie. La médecine fut possible. Qu'elles aient fort abusé du principe, on ne le nie pas. Il n'est pas moins évident. Rien d'impur que le mal moral. Toute chose physique est pure. Nul ne peut être éloigné du regard et de l'étude, interdite par un vain spiritualisme, encore moins par un sceau d'égout. Les injures ne manquèrent pas. On appela les sorcières sales, indécentes, impudiques, immorales. Cependant, leurs premiers pas dans cette voie furent, on peut le dire, une heureuse révolution dans ce qui est le plus moral. la bonté, la charité. Par une perversion d'idées monstrueuses, le Moyen-Âge envisageait la chair en son représentant, maudit depuis Ève, la femme, comme impure. La Vierge, exaltée comme Vierge, plus que comme Notre-Dame, loin de relever la femme réelle, l'avait abaissée en mettant l'homme sur la voie d'une scolastique de pureté où l'on allait en chérissant dans le subtil et le faux. La femme même avait fini par partager l'odieux préjugé et se croire immonde. Elle se cachait pour accoucher. Elle rougissait d'aimer et de donner le bonheur. Elle, généralement si sobre en comparaison de l'homme, elle, qui n'est presque partout qu'herbivore et frugivore, qui donne si peu à la nature, qui par un régime lacté, végétal, à la pureté de ses innocentes tribus, elle demandait presque pardon d'être, de vivre, d'accomplir les conditions de la vie. Humble martyr de la pudeur, elle s'imposait des supplices jusqu'à vouloir dissimuler, annuler, supprimer presque ce ventre adoré. Trois fois saint, d'où le Dieu homme naît, renaît éternellement. La médecine du Moyen-Âge s'occupe uniquement de l'être supérieur et pur, c'est l'homme, qui seul peut devenir prêtre et seul, à l'autel, fait Dieu. Elle s'occupe des bestiaux, c'est par eux que l'on commence. Pense-t-on aux enfants ? Rarement, mais à la femme, jamais. Les romans d'alors, avec leur subtilité, représentent le contraire du monde. Hors des cours, du noble adultère, le grand sujet de ces romans, la femme, est partout la pauvre Griselidis, née pour épuiser la douleur, souvent battue, soignée, jamais. Il ne faut pas moins que le diable, ancien allié de la femme, son confident du paradis. Il ne faut pas moins que cette sorcière, ce monstre qui fait tout à rebours, à l'envers du monde sacré, pour s'occuper de la femme, pour fouler aux pieds les usages et la soigner malgré elle. La pauvre créature s'estimait si peu. Elle reculait, rougissait, ne voulait rien dire. La sorcière, adroite et maligne, devina et pénétra. Elle sut enfin la faire parler, tira d'elle son petit secret, vainquit ses refus, ses hésitations de pudeur et d'humilité. Plutôt que de subir telle chose, elle aimait mieux presque mourir. La barbare sorcière la fit vivre.
Vous a présenté La liberté coupable, 5e série, La sorcière de Jules Michelet. Texte choisi et présenté par Roland Barthes et lu par Alain Cuny. Aujourd'hui, 2e émission, La sorcière consolatrice. Samedi prochain, à la même heure, 3e émission, La fin de Satan. C'était La liberté coupable.
C'était la deuxième partie d'une série de La liberté coupable consacrée à la sorcière de Michelet. Première diffusion le 15 février 1964.